C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Un des dossiers du jour, pour ne pas dire celui qui a pris toute la place hier à l'Assemblée nationale, c'est le dossier de l'immigration par voie de, je dirais, conséquence, le dossier de la langue aussi. Et là, M. Trudeau, qui veut tous les pouvoirs, Justin Trudeau, en matière d'immigration, a dit pas question. On est-tu au début d'une nouvelle chicane Ottawa-Québec, Nathalie?
Ah, non seulement M. Legault cherche la chicane, Paul, mais il a déjà enfilé ses gants de boxe, M. Legault. Mais malheureusement pour lui, le combat est déjà KO. Parce que M. Trudeau a dit non, il n'y en a pas question. En fait, on préfère des ententes. On préfère travailler en partenariat plutôt que négocier une nouvelle entente qui fera en sorte que tous les pouvoirs seraient rapatriés à Québec. Et moi, lorsque j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit provoquer Ottawa pour créer une chicane à 4 mois d'une élection, ça crée son effet à une certaine époque. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Québécois ont la tête ailleurs. L'augmentation des prix en épicerie, l'augmentation des prix à la pompe, là, la Banque du Canada qui va annoncer une autre hausse de ses taux d'intérêt. Je pense que M. Legault devra réévaluer sa stratégie et se repositionner, selon moi.
D'autant plus que tu as vu que M. Trudeau est sorti le lendemain, c'est pour dire...
Ben ouais.
Parce que c'était supposé être la question de l'urne pour Legault. On est menacé, la langue française est menacée, un thème fort chez les Québécois.
Pouam, pouam, pouam.
Puis c'est moi le défenseur. puis là, je vais en faire ma question. Puis là, Trudeau oublie ça tout de suite. Le lendemain matin, mais je pense pas le lendemain matin, quelques heures plus tard, ça révèle le niveau d'animosité. Moi, je pense que chaque fois que M. Legault ouvre la bouche sur ce dossier-là, il donne des votes au Parti québécois. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est la démonstration de ce que Plamondon essaye de faire depuis 4 ans puis il ne réussit pas à faire. C'est-à-dire, la position sur laquelle il a surfé en disant « Je suis le nouveau nationaliste, on n'a plus besoin du Parti québécois, moi je suis le nationaliste qui va faire avancer vos dossiers sans aller jusqu'au référendum, sans aller jusqu'à l'indépendance », mais ça foire. Parce que là, en ce moment, sur une question deux questions majeures, ouais, trois questions majeures.
Je vous trouve vite sur la gâchette.
Ah ouais, vas-y.
Hey, tu disais un peu, là. Legault lance ça, puis c'est pas parce que Trudeau répond non le lendemain, puis on aurait été premier surpris. Ah ben oui, finalement, on est bien d'accord. T'sais, c'est un rapport de force, ça se bâtit pas en 48 heures, ça, de négo.
Non, mais...
Tu sais, je me souviens de l'entente d'immigration, le Couture-Collin en 77.
Oui.
Bon, ben, ça a commencé par un nom, puis finalement...
Tranquillement. Ben, mais sauf que ça fait 4 ans que ça dure. C'est-à-dire que le premier dossier que Legault a déposé, premier dossier en arrivant au pouvoir, Jeanine Barrette, il avait été super vite, puis c'était l'immigration. Puis c'est tout le temps la même chose. On veut récupérer le droit sur la réunion des familles. La réunion des familles, ça représente environ 10 000 immigrants sur 50 000 au Québec. Donc, c'est pas du nouveau. Si tu me disais, ils négocient sur quelque chose pour lesquels leurs positions, ils sont, tu sais, dans la guerre, c'est quand les positions s'enterrent, quand chacun se creuse des tranchées. Avant que les tranchées soient creusées, oui, t'as raison. Oui, OK, 3 rencontres, puis bon, on a peut-être une concession. Mais là, ils sont dans des tranchées depuis 4 ans. Puis ils s'affrontent. Fait qu'à mon avis, ça bougera pas. Puis les 3 questions fondamentales que Legault pose, loi 96, loi 21, immigration, sur les 3 sont dans les tranchées.
Moi, je comprends ton point de vue, Paul, mais la dernière entente qui a été négociée entre Québec et Ottawa, ça date de 1991.
Exact.
Entre Mme Gagnon-Tremblay et Mme Barbara McDonald, mais c'est un gouvernement libéral qui négociait avec le gouvernement de Brian Mulroney. Moi, je ne sens pas aujourd'hui les mêmes atomes crochus entre Justin Trudeau et François Legault. Je pense que si M. Legault voulait être plus pragmatique, s'il voulait rendre service à tous les entrepreneurs au Québec qui misent sur l'immigration pour corriger leurs problèmes ou résoudre leurs problèmes de pénurie de main-d'œuvre, il faudrait qu'ils poussent Ottawa dans les cas pour ce qui est des délais de traitement, entre autres pour les dossiers des travailleurs étrangers temporaires. On est rendu à 37 mois de délai, là. Alors, ce qui se passe dans ce sens-là, c'est que souvent les travailleurs vont migrer en Ontario, vont dans d'autres provinces. Là, on serait dans le concret. Là, M. Legault a embrassé le dossier de l'immigration en y associant la langue et en disant, écoutez, si Ottawa ne nous donne pas tous les pouvoirs, le Québec va devenir la Louisiane. Là, en ce sens-là, la CAQ joue dans le même carré de sable que le PQ, parce que le PQ dit la même chose. Si on ne fait pas davantage pour la langue française, le Québec va disparaître, littéralement. Et là, je pense que les Québécois ont décroché. Il n'y a pas personne au Québec qui pense qu'effectivement, le Québec va devenir la Louisiane. Là. Voyons donc, c'est méconnaître l'histoire de la Louisiane et c'est méconnaître la réalité du Québec. Là. Il y a quoi? Il y a 94% des Québécois qui parlent français au Québec et la situation s'améliore. Exception de Montréal. J'entends, Montréal, c'est une classe. C'est un monde à part. Mais cette espèce de bonhomme 7 heures, parce que M. Legault se transforme un peu en bonhomme 7 heures là, lorsqu'il compare. compare le Québec
à la
Louisiane.
Pour la bonne raison, Nathalie, que son sa façon de faire du nationalisme, c'est de jouer les ténors. C'est-à-dire, c'est de prendre le micro, parler de fierté, parler haut et fort en disant le Québec, mais il n'y a pas les moyens pour le défendre puisqu'ils sont au fédéral. Alors, il est obligé de parler de plus en plus fort. Et puis, et là, ça, là, c'est en train d'arriver à sa limite, là, parce que là, il parlait un peu trop. Tout le monde a compris qu'il était au bout des superlatifs. Mais par contre, ils n'ont pas tort sur le fond. C'est-à-dire que sur le fond, il y a un vrai problème de... Dans les statistiques, il doit y en avoir 200 000 des statistiques sur la langue.
Oui,
moi, j'en garde juste deux, OK? La langue parlée à la maison, la langue parlée au travail. Puis une troisième, pour les mettre en valeur, la langue au moment que tu arrives. Alors, quand les immigrants arrivent, OK? Il y en a juste 26 qui sont de langue maternelle, 26% qui sont de langue maternelle française. Il y en a 68 qui parlent une autre langue, puis il y en a juste 5 qui parlent l'anglais. Donc, le Québec fait bien son travail, sélectionne des gens qui parlent le français et une langue tierce. Quelques années plus tard, il y en a 41 qui parlent le français, donc il y en a 48 qui parlent une troisième langue et 9 qui parlent l'anglais. Ça veut dire quoi, ça? On est parti de 26 qui parlaient le français, on a monté à 41. Pas pire, le français, il y a un bon travail qui a été fait.
C'est
là.
Bon,
il y en
bon.
A 68 qui parlaient une tierce langue à la maison, il y en a, reste juste 48 qui parlent une tierce langue. Pas pire. Ceci étant dit, ça fait qu'on est quand même seulement à moins de 50% des gens qui parlent couramment intégré au français. Ça veut dire que si tu parles anglais au travail, puis si tu parles l'espagnol à la maison, ben on est fait. Si tu parles le français au travail, l'espagnol à la maison, il y a pas de problème. C'est pas grave de parler une tierce langue à la maison, mais il faut que la langue de travail est déterminante à partir du moment où les immigrants choisissent de garder leur langue à la maison. Et la langue de travail pose problème.
C'est à Montréal où la langue de travail
je sais
pose
qu'à
Maria, le problème.
À Maria, il n'y a pas de problème, le français.
Non, mais là, écoute, là, je sais que tu aimes bien la Gaspésie, mon cher Luc, tu aimes bien me taquiner avec Maria, là. Mais il faut quand même reconnaître, parce que la statistique, c'est quoi? 58% du français est utilisé dans le milieu de travail à Montréal. Par contre, ce qu'on constate dans les statistiques, c'est que l'anglais aussi a diminué. En fait, ce qui est de plus en plus privilégié, c'est le bilinguisme au travail à Montréal. Puis c'est un peu normal que ce soit comme ça, là, parce que Montréal, c'est la métropole, parce que Montréal fait des affaires avec la planète entière, parce qu'il y a une multitude de communautés issues de l'immigration
oui, mais,
à Montréal.
Mais Nathalie, ça s'appelle lip service en anglais. C'est-à-dire que si tu parles français pour faire plaisir à ton interlocuteur, tu dis, ça prendrais-tu un café, prends-tu deux laits dedans, puis après ça, OK, now let's talk business, puis là, tu parles en anglais tout le reste du meeting. Oui, c'est bilingue. Oui, c'est bilingue. Mais la langue fonctionnelle dans les échanges internationaux, dans les échanges avec les autres composantes de l'entreprise, etc., c'est rarement le français.
Oui, mais tu vois, encore une fois, ça dépend, Luc. Ça dépend. C'est à des échelles variables. Mais puisqu'on peut faire dire plein de choses aux chiffres, moi, j'ai envie de vous dire, soyons vigilants. C'est exactement ce que le premier ministre fait avec la modification de la loi 101 qui a été proposée. Moi, je pense qu'il est allé un peu trop loin, il a poussé un peu trop fort sur le bouchon, qui fait en sorte que du côté d'Ottawa, ça résonne. Pensez-vous vraiment que Justin Trudeau va répondre aux arguments, va dire à Québec, ben oui, on va donner tous les pouvoirs en immigration, alors que pour, sauver la langue française, étant entendu que là-dedans, il y a des minorités à protéger, parce que le gouvernement de Justin Trudeau, lui, il protège les minorités, qu'elles parlent française ou qu'elles parlent anglais au Québec. Enfin, je trouve que sur le plan politique, c'est un dossier qui est extrêmement glissant. Le gouvernement a choisi une pente glissante, qui est celle du nationalisme identitaire, et moi, je pense que ça va leur faire peut-être plus de tort que de mal.
On s'arrête...
plus de tort que de
oui,
bien, c'est-à-dire.
Au retour de la pause, est-ce que Montréal va écouter, est-ce que Montréal devrait écouter les projets de ses promoteurs immobiliers qui veulent densifier une partie de la ville?
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, on parle beaucoup de densifier le territoire, donc pour éviter l'explosion vers les couronnes, construire des logements. Quand on parle d'immigration d'ailleurs, comme disaient des auditeurs, c'est bien d'accueillir tout le monde, mais ça va prendre de l'espace. Il faut tenir compte de cette réalité-là. Et là, il y a des promoteurs un peu partout qui lèvent la main en disant telle partie de Montréal, on devrait construire, densifier. La question ce matin, est-ce que la Ville doit entendre puis donner suite au projet de ses différents promoteurs? Luc?
Tellement pas. La Ville doit rester sur ses positions. La Ville a décidé que dans ce cas-là, elle faisait un projet réfléchi, qui allait prendre en considération toutes les règles d'urbanisme, la présence des écoles, des parcs, la densité de population qui est suffisante pour avoir des commerces, mais un prix de loyer suffisant pour que ce soit des commerces de coin de rue, de proximité, que ce soit pas juste des bannières. Donc, c'est un nouveau quartier, un immense nouveau quartier. Faut y réfléchir. Faut faire un plan de développement élaboré. La ville a déposé son plan de développement. Puis quand tu regardes, les grands projets qui ont fonctionné à travers le monde, tu sais, Lyon Confluence, Amarby, Malmö, ressemblent beaucoup au projet que la ville a déposé. Alors, le promoteur dit non, moi, je veux des tours, ça veut de la densité. Et la densité, c'est bon pour l'environnement. Tout le monde en parle en ce moment. Faut densifier la ville. Un instant. Premièrement, ça, c'est l'équivalent, c'est l'analogie avec tous ceux qui voulaient faire des puits de pétrole, puis quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine a explosé, ils ont dit, c'est pour ça qu'on fait du puits de pétrole. Ah, c'était pour cette raison-là, là. Ça cause la guerre. Non, ça fait 5 ans que tu travailles sur ton projet, c'est pas à cause de la guerre. Ils sautent sur un cheval de bataille en cours en disant, oui, la densité. Une minute. Une statistique. En ce moment, le taux de vacances à Montréal est assez élevé, autour de 3 % Il paraît que ça serait beaucoup plus que 3 % parce que c'est des statistiques qui sont cumulées à la fin de l'année. Mettons qu'on est rendu à 4,5 %. Là-dedans, le logement abordable, il est à 0,1 %. Les gens qui cherchent un haut duplex à Rosemont, il n'y en a pas. C'est 0,1 %. Les condos au centre-ville, à 1 million pièces, là, ça, il y en a, en masse. Et ce que ce projet-là veut construire, c'est ça. C'est des unités qui vont coûter 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 $ le pied carré.
Pour deux adultes.
Ben voilà. Alors, il est où le gain pour Montréal là-dedans?
Ouais. Toi, Luc, tu dis non promoteur. Moi, je dis pourquoi pas. Le secteur dont on parle, c'est Bridge Bonaventure, un secteur, t'as raison, c'est un grand secteur, 2,3 km carrés. La Ville de Montréal dit nous, on est prêt à construire 3800 nouveaux logements. Les promoteurs disent 7500. Alors, moi, je dis, il y a probablement une zone entre les deux qui pourrait faire l'objet de discussions entre la ville et les promoteurs. Parce que Luc, dans notre questionnement ce matin, on peut se demander qu'est-ce qu'une densification intelligente? Je ne vois pas comment on peut densifier un aussi grand territoire sans avoir un minimum d'édifices en hauteur. Un. Deuxièmement, tu vas financer ça comment? Un projet, un aussi grand territoire à densifier, c'est pas vrai que c'est les sommes, les deniers des contribuables, ceux de Montréal ou du Québec qui vont exclusivement financer un projet comme celui-là qui, selon les promoteurs, pourrait se traduire par plusieurs milliards de dollars. Moi, je pense que la Ville de Montréal et toutes les villes, d'une certaine façon, sont condamnées à travailler avec des promoteurs privés. Et dans ce cas-ci, c'est des promoteurs qui se sont associés à des architectes, à des urbanistes. C'est un projet qui a été réfléchi, d'ailleurs. Si vous regardez ce qu'ils ont conçu, des scénarios avec une basse densification, d'autres scénarios avec une densification un peu plus élevée. Alors, mais la question, Luc, c'est est-ce que lorsqu'on parle de densification, on dit non, totalement non aux tours, des tours? Puis si on dit, des tours, quelle hauteur maximum on impose? Puis l'autre chose, comment tu fais pour concilier la densification avec la rentabilité associée à un projet?
Bon, ben, écoute, la rentabilité, il n'y a aucune question qui se pose, là, je veux dire. Ce projet-là, la rentabilité, écoute. Ces logements-là.
Mais si je suis promoteur, Luc, moi, je ne suis pas dans mes îles de charité.
Non, mais fais-toi-en pas, là. On parle de la pointe du Moulin, là. Regarde, c'est face au Bas-Saint-Pile, c'est face au Vieux-Montréal, c'est face au fleuve Saint-Laurent, dans certains cas, pas loin du fleuve Saint-Laurent. Il n'y a aucun problème de rentabilité dans ce coin-là, 0,00. La question, c'est combien d'argent le promoteur va se mettre dans les poches, là. Si tu es capable de construire dans des coins ingrat, c'est sûr que tu peux construire dans des coins qui sont super valorisés. Et oui, t'as raison, on peut mettre un certain nombre de tours. Oui, des tours de luxe, pourquoi pas. Il y a aussi des gens qui sont capables de se payer des gros logements. Il n'y en a pas de problème, là. Sur le Bas-Saint-Pile, tu peux en mettre. La vue est extraordinaire, le site est extraordinaire, tout est extraordinaire. Tu peux en mettre des tours, là, où tu vas aller chercher du 1200, 1300 $ par pied carré. La question, c'est, est-ce que tu vas construire un quartier si tu fais juste ça? Si tu fais juste de la... Puis là, ils disent, on va avoir 20% de logement social. Attends.
Oui. Oui, 1400 logements familiaux.
Alors, voilà. Les logements familiaux, attention, il n'y a pas de limite de prix. Ils ne sont pas occupés par des familles, les logements familiaux. Dans la définition, un logement familial, c'est un logement de grande dimension. Okay. Mais tu contrôles pas le nombre d'enfants. Hein? Parce qu'il faudrait que tu aies une caméra dans la chambre à coucher. Fait que,
tu peux contrôler le nombre de chambres à coucher que tu as dans ton logement.
Oui, on a vu dans d'autres projets, sauf erreur, des logements familiaux qui n'étaient pas vraiment occupés par des familles.
C'est clair que c'est un gars tout seul. C'est un broker en bourse qui a acheté du Apple au bon moment. C'est pas une famille. Là, va dire, il est à 1200 $ le pied carré. Ton logement, il te coûte 1 600 000.
Mais tantôt, tu nous as dit, puis je veux t'entendre là-dessus. Tu as dit, regardez, dans telle ville, ils ont fait ça. Dans telle ville.
Ouais.
si c'est pas des tours, on ajoute quoi? Qu'est-ce qu'on fait?
De mixité.
Ça veut dire quoi, ça?
Mixité, ça veut dire que t'as des tours, t'as du 6 étages, t'as du 3 étages à certains endroits, t'as même de la maison individuelle, pas beaucoup, parce que c'est des logements qui, des quartiers qui coûtent très, très cher. Maison individuelle en rangée, sur 3 étages, en hauteur, là, c'est des, t'occupes les 3 étages, mais elles sont étroites. Mais ce que t'as besoin, c'est d'avoir une structure, une base organique de vie au rez-de-chaussée. T'as besoin de ça. Tu sais, là, les tours, là, comme Sir William, la Longueuil, là, où la vie, ce sont les espaces communs. C'est quoi les espaces communs? On a un mur végétalisé, on a une réceptionniste, on a... Ça, c'est pas ça, la vie. La vie, c'est le dépanneur, le cordonnier, l'école, le ci, le ça. Ben, ça, c'est sa base organique. La base organique de la vie, là, faut que tu la garantisses. Donne pas à un promoteur la responsabilité d'organiser la base organique d'un quartier. Il va pas la faire.
Non, mais Luc, excuse-moi, mais le projet qui a été déposé est plus nuancé que ce que tu présentes. Deuxièmement, la ville peut imposer ses conditions. Parce que moi, ce que je trouverais dommage, c'est que la ville dise non à Bridge, au promoteur pour le secteur de Bridge, Bonaventure. Que la ville dise non, on veut rien savoir de ça, c'est à nos conditions d'attitude. Est-ce que vous pouvez minimalement vous parler? Parce que lorsqu'un promoteur ou des promoteurs, des architectes, un consortium de cette nature cogne à la porte d'une ville comme Montréal, la première chose qu'il faut faire, c'est les accueillir, leur dire bonjour, venez, on va discuter de votre projet. Parce que, oui, parce que c'est quand même un privilège de savoir que des promoteurs lèvent la main pour dire, savez-vous quoi, nous on a réfléchi à la question. Parce que non seulement ils ont réfléchi à la question, ils ont même pris l'engagement de consulter à nouveau parce que la ville a réussi à établir sa vision du quartier grâce aux consultations qui ont été menées par l'Office public de consultation de Montréal. Et là, les promoteurs disent, ben savez-vous quoi, là, non seulement on est prêt à s'asseoir avec la ville, ouais, mais nous on est prêt aussi à consulter les organismes communautaires. Nathalie, excuse-moi, c'est pas un quartier qui veut le faire fantôme.
Mais Nathalie, attends,
là,
premièrement, moi je connais les acteurs dans le domaine, OK? Le groupe Lemay qui travaille pour Devinco, etc. Cette association-là fait pas une consultation parce que la consultation de la ville de Montréal n'est pas bonne. Ils font une consultation pour faire pression, pour faire monter la pression publique, pour pousser la ville de Montréal à aller vite, à prendre une décision rapidement. Il y avait pour la Pointe du Moulin un quartier qui avait été développé par Pierre Thibault, OK? Pierre Thibault, c'est la Société immobilière du Canada qui vendait le terrain. La Société immobilière, elle a pris beaucoup de temps pour établir quel genre de développement il allait avoir à cet endroit-là. Pierre Thibault arrive avec un projet extraordinaire. Ça a amélioré le tourisme. Il y avait des liens avec l'école école de technologie supérieure un peu plus loin pour du logement étudiant. Il y avait des promenades sur le bord. C'est extraordinaire. C'est pas eux qui l'ont apporté, c'est Devinco qui ont apporté le... Pourquoi? Parce qu'ils ont payé, ils ont apporté la mise. Ils ont payé plus cher pour le terrain.
Mais ça, tu peux pas développer des projets comme
ça sans argent. En vertu de quoi? Ils sont obligés de se rembourser maintenant. Et là, ils sont... Oui. Ils font quoi? Ils font un ensemble de tours qui font face au Vieux-Montréal. Point final. Ben, il y a sans doute de la réflexion puis du raffinement sur les trottoirs, les rues, etc. J'en conviens, là, ça sera pas laid. Mais on est loin du projet de Pierre Thibault. On est très, très, très loin du projet de Pierre Thibault.
Je vous arrête là-dessus parce que le temps file comme d'habitude. Merci beaucoup. On vous retrouve demain.
C'est 23.